projet de loi sur le sujet.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Le débat du jour. Alexis Guilleux.
Il faudra trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires cette année, annonce de Bercy hier, le ministère français de l'économie. Table désormais sur un déficit public de 5,1% en 2024, un peu plus que les prévisions. Cette petite musique découpe dans les dépenses qui revient depuis l'annonce de l'INSEE en mars dernier, le dérapage du déficit public l'an dernier. À cause de recettes plus faibles qu'attendues, il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur la peur de la dette et une France au pied du mur après plusieurs années de quoi qu'il en coûte. Alors que l'Hexagone est sur le podium des mauvais élèves de la zone euro, pourquoi est-ce si difficile de faire des économies? Ce déficit qui se creuse est-il grave? Comment expliquer les différences entre l'Hexagone et ses voisins? Déficit, y a-t-il un problème français? Bienvenue dans le débat du jour. Et pour en parler, nous recevons ce soir trois économistes autour de moi en studio. François Eckhall, spécialiste des finances publiques. Christian Chavagneux, éditorialiste sur le site d'Alternative Économique. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et au téléphone avec nous également Andreas Heisel, chercheur en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir.
Bonsoir.
Je me tourne d'abord vers vous, François Eckhall. Un déficit public français à 5,5% du PIB l'an dernier, une prévision à 5,1% cette année. Est-ce que c'est grave ?
Ça n'est pas très grave au sens où la France aujourd'hui emprunte très facilement. Le marqueur des difficultés d'endettement d'un pays en Europe, c'est l'écart de taux d'intérêt auquel chaque État emprunte par rapport à celui de l'Allemagne pour la même échéance, 10 ans. Et cet écart, il oscille entre 40 et 60 points de base depuis des années et il ne donne pas de signe de s'écarter durablement de cette fourchette. Donc ça veut dire que pour le moment, voilà, les créanciers de l'État français ne sont pas inquiets. Maintenant, le problème, c'est que la dette publique française, elle augmente tendanciellement depuis déjà 50 ans au moins. Et alors, elle augmente pendant les crises. Ensuite, on arrive tout juste à la stabiliser. Et après, elle réaugmente de nouveau. Et donc, on peut se craindre. En fait, plus elle augmente, plus on prend de risques. On prend le risque qu'un jour, en effet, les créanciers se mettent à avoir peur et se disent à ce moment-là, on va demander des taux d'intérêt plus élevés parce qu'on prend un risque. Et à partir de ce moment-là, la charge d'intérêt augmente, le déficit augmente, la dette augmente. Et on peut se trouver dans une situation très difficile.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on entend régulièrement en France cette nécessité de faire des économies, du poids de la dette qui serait trop lourd et pourtant les gouvernements successifs creusent ce déficit depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'il y a sur ce point une spécificité française ?
Alors, on n'a pas encore les données harmonisées internationales pour 2023, mais fin 2022, la France, pour sa dette publique, était au cinquième rang de l'Union européenne. On avait l'Italie et la Grèce assez loin et juste au-dessus, on avait l'Espagne et le Portugal. Au niveau de l'OCDE, la définition de la dette n'est pas la même. En Europe, on a une définition particulière au sens de Maastricht. Avec la définition internationale, on n'est pas à 112 points de PIB, on est plutôt vers 120. Et on est aussi les cinquièmes. Les Espagnols et les Portugais passent dessous, mais en revanche, devant, on a le Japon très très loin devant et les États-Unis un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Et donc, on est dans le peloton de tête, mais ce qui est plus grave, en fait, c'est qu'on est sur cette tendance croissante. On était, quand on a créé l'euro en 2000, on était au niveau de la moyenne européenne, on était au même niveau que l'Allemagne et on est resté au même niveau que la moyenne que l'Allemagne pendant quelques années et on a commencé à diverger à partir de la fin des années 2000. C'est ça qui est inquiétant, c'est que on a une évolution qui n'est pas la même que celle des autres. Là, l'Espagne et le Portugal, par exemple, en 2022, ils étaient comme nous. Le Portugal, il va descendre nettement au-dessous de nous. Donc on est sur une mauvaise pente.
Christian Chavagneux, sur cette mauvaise pente.
C'est vrai que vous l'avez dit, 5,5% du déficit budgétaire l'an dernier, 5,1, ça fait 10 points de PIB en deux ans, ça commence à faire beaucoup. Donc là, on assiste à un début de dérapage des comptes publics. François Eckhall l'a dit, est-ce que c'est grave? Non, parce que nos créanciers viennent nous financer sans aucun problème. On note même que c'est des créanciers plutôt de long terme, des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Donc c'est des gens qui vont plutôt garder notre dette, qui ne sont pas là pour spéculer. On pourrait dire, ok, ils nous financent, mais est-ce que ça coûte plus cher? Non, François Eckhall l'a dit, on reste reste à peu près dans le même écart avec l'Allemagne. Est-ce que ça pèse beaucoup sur notre budget? L'INSEE nous a dit l'année dernière l'équivalent de 1,8% du PIB, le remboursement de notre dette. La moyenne historique, c'est à peu près 2,5%. Donc, on est encore très, très loin. Les agences de notation, elles regardent un autre indicateur qui est lorsqu'on doit rembourser comme dette, combien, quelle part des recettes fiscales. Et quand ça commence à approcher de 5%, elle commence un peu à grincer des dents. Et nous, l'année dernière, on était à 3,4%. Donc, oui, attention, inquiétude, on ne peut pas rester comme ça. Il faut que le gouvernement fasse beaucoup plus que ce qu'il nous a annoncé. Peut-être pas en réduisant les dépenses, mais on viendra peut-être plus tard sur les solutions. Mais en tout cas, attention, début de dérapage, mais pour l'instant, on arrive à bien gérer.
Le risque, c'est quoi? C'est d'avoir l'image de quelqu'un qui ne maîtrise pas sa trajectoire budgétaire.
Oui, et puis que concrètement, on ne maîtrise pas notre trajectoire budgétaire et que les créanciers internationaux commencent un petit peu à douter. Mais pour l'instant, cet après-midi, chez nos collègues du Monde, on avait le directeur financier de PIMCO, qui est un grand compte société de gestion et qui investit beaucoup et qui dit franchement, moi, j'ai aucun problème avec la dette européenne, aucun problème avec la dette française. Donc aujourd'hui, on garde la confiance.
Andreas Heisel, vous avez, vous, justement, travaillé sur des comparaisons entre la France et l'Allemagne dans une note publiée l'an dernier à l'Institut français des relations internationales. Sur cette question des finances publiques, François Eckhall le disait il y a quelques minutes, la trajectoire des deux principales économies européennes, elle a divergé il y a environ 20 ans et chaque système se retrouve plutôt vulnérable aujourd'hui. Comment on explique déjà cette divergence ?
Cette divergence s'explique, je pense, que d'un côté, qu'en France, que aussi comme on a entendu ça avec ces interventions, il n'y a pas non plus le sentiment, même si la dette a vraiment augmenté ces dernières décennies, qu'on est dans une situation de crise, en fait. On est dans une situation où, à cause du niveau d'endettement, on a une situation budgétaire qui est simplement plus fragile. Ça veut dire simplement, une fois qu'on a une perte de confiance auprès des créanciers, on pourrait quand même assez rapidement aller dans une situation compliquée, vu du niveau d'endettement. En Allemagne, en fait, en comparaison, et peut-être ceci est le cas d'autres pays, il y a une autre vue, en fait, sur la dette, sur l'endettement, sur les rôles du déficit et à partir de quel moment ça devient un problème. Et en fait, en Allemagne, notamment, c'était en fait l'unification de l'Allemagne dans les années 90, qui coûte très cher à l'État et qui crée un sentiment, en fait, de surutilisation de l'État pour faire face à différentes crises. Et donc, dans la sphère politique, c'est créer une situation où on a vraiment une volonté de contraindre la dette et le déficit et d'aller dans une autre part. Parce qu'aujourd'hui, si on parle que tout le monde se compare avec l'Allemagne en termes de taux d'intérêt sur la dette, c'est aussi parce que l'Allemagne prend une direction très contraignante sur ses finances publiques. Après, l'Allemagne a aussi un autre modèle économique que la France, qui explique aussi qu'il y a aussi un problème, en fait, de fortement contraindre le budget, parce que c'est un modèle beaucoup plus focalisé sur l'exportation que la France. Et donc là, en France, je pense qu'on a toujours un peu peur, si on voudrait baisser, en fait, les déficits plus rapidement, ça crée des problèmes en termes de croissance économique. Et je pense que là, aujourd'hui, le gouvernement est vraiment dans une situation délicate entre essayer de réduire les déficits, mais en même temps, pas trop avoir un effet négatif sur la croissance. On est quand même dans une situation assez compliquée aujourd'hui en termes de croissance.
Et François Eckhall, est-ce qu'il y a quand même un risque de voir des pays européens, plutôt des bons élèves en matière de gestion des finances comme l'Allemagne, de dire à la France... Il faut faire mieux.
Le risque pour moi, en fait, la question fondamentale pour moi, c'est si un jour les marchés financiers s'inquiètent tout d'un coup de la situation en Italie ou en France, parce que l'Italie est dans une situation plus difficile, c'est que va faire la BCE ? La BCE a juridiquement la possibilité d'intervenir pour acheter des titres de dette des États de la zone euro en quantité illimitée. C'est la traduction du « whatever it takes » de Mario Draghi. Le problème, c'est qu'elle ne peut le faire en principe que si la dette publique de ce pays est soutenable, c'est-à-dire que si on est capable d'en avoir le contrôle et on est capable de la stabiliser ou de la réduire. Si ça n'est pas le cas, elle ne peut intervenir qu'en contrepartie de mesures qui peuvent peuvent être très drastiques, comme celles qu'ont connues certains pays européens dans les années 2011-2012. Après, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les marchés ne s'inquiètent pas aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent que finalement la France ou l'Italie sont too big to fail, comme disent les banquiers. Et donc, de toute façon, elle interviendra toujours. Mais si elle intervient, je pense qu'on aura des problèmes avec nos partenaires du nord et du centre de l'Europe, parce que moi, ce que je crains, c'est la montée de mouvements populistes dans ces pays sur le thème « on ne veut pas payer pour les Français et les Italiens ».
Christian Chavagneux, sûr.
On n'en est pas là. Notre dette, elle est complètement maîtrisée aujourd'hui. Nos créanciers, on l'a dit tout à l'heure avec François Eckhall, sont là. Ils nous financent, non seulement ils sont là, ils nous financent à pas cher. Attention à l'image de l'Allemagne très rigoureuse. Je me rappelle du ministre hollandais des Finances qui rendait visite au ministre allemand des Finances. Il y va en voiture, et pour ne pas perdre de temps, il y va en voiture avec chauffeur, il est ministre, bien sûr. Il lit son journal, et tout d'un coup, il y a son journal qui se met à trembler comme ça. Il dit, tiens, ça y est, je suis en Allemagne. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a un manque d'infrastructures publiques en Allemagne. Le Fonds monétaire international, la semaine dernière, a dit « Attention, le gouvernement allemand ne dépense pas assez, ne fait pas assez de dépenses publiques, notamment en matière d'infrastructures. Ce pays est trop rigoureux. »
Oui, Andreas Heisel, l'Europe doit ratifier en avril les nouvelles règles budgétaires communes, ce pacte de stabilité qui avait été désactivé au moment du Covid, de la guerre en Ukraine. Et il y a eu une étude, un groupe de réflexion britannique, le New Economics Foundation, qui a dit que 18 États membres pourraient ne pas tenir les objectifs en matière d'investissement. Donc là, on parle santé, éducation, logement, à cause notamment de ces règles budgétaires. Et là, dans ces pays, on retrouve la France, mais aussi l'Allemagne. Andreas Heisel, est-ce que finalement, il n'y a pas un problème européen ?
En fait, on est aujourd'hui dans une situation où on a des énormes besoins d'investissement dans la transition verte, transition numérique, toute la question de sécurité avec la guerre en Ukraine. Au même temps, on est dans un contexte macroéconomique budgétaire très compliqué parce qu'on a, suite à la guerre et la crise de prix d'énergie, on a en gros dû augmenter le taux d'intérêt. Et qui crée maintenant, par exemple aussi dans le budget de la France, la situation que cette taux d'intérêt augmenté se traduit aussi dans un service du coût du service de la dette qui s'augmente là dans les prochaines années. Au même temps, maintenant, avec ce nouveau cadre, on essaie en fait de trouver un équilibre entre, en gros, investir plus ou maintenir un niveau d'investissement élevé et de réduire les déficits et la dette au même temps. Je pense que dans les contextes actuels qu'on a, c'est très difficile, en fait, parce qu'on a beaucoup de pression sur le budget maintenant qui vient simplement de l'augmentation de taux d'intérêt. Donc, et là, je pense que c'est un problème qui touche beaucoup des États membres. Et là aussi, c'est une question, comment en fait on peut régler cette situation ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir qu'on va mettre en place un nouveau fonds d'investissement européen, en fait ? Parce que ce serait une des solutions pour lesquelles on pourrait accompagner ces règles budgétaires au niveau national, avec aussi une capacité au niveau européen d'investir et avoir assez de moyens en fait, pour investir dans tous nos besoins d'investissement.
Christian Chavagneux, est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe du retour à ces règles budgétaires européennes alors qu'il faut investir massivement, notamment dans la transition énergétique ?
Il faut investir dans la transition énergétique, il faut investir dans la transition numérique. Nos services publics, on a besoin d'argent pour l'hôpital, on a besoin d'argent pour la recherche, on a besoin d'argent pour l'université, etc., etc. On a besoin d'argent pour l'armée, pour la sécurité. Le contexte actuel, il est que dans les 10 ans qui viennent, on va avoir besoin d'augmenter les finances publiques, pas de baisser les finances publiques. Et donc, quand Andreas Heisel dit on est dans une situation compliquée, il y a une solution possible qui est de renvoyer le financement de ces investissements, de toutes ces dépenses publiques à l'Europe, donc pour avoir un endettement commun, mais son gouvernement, le gouvernement des Pays-Bas n'en veut pas. Donc, la situation n'est pas si compliquée que ça. Il faut aujourd'hui augmenter les impôts. Quand vous avez un déficit, quand il y a trop de dépenses par rapport aux recettes, vous ne pouvez pas toucher aux dépenses, on va même falloir les augmenter, il va falloir augmenter les recettes.
Déficit, y a-t-il un problème français ? Le débat du jour sur RFI avec nos invités, les économistes François Eckhall, Christian Chavagneux et Andreas Heisel. On va évoquer les solutions et les perspectives. Christian Chavagneux vient à l'instant d'ouvrir la porte de ces solutions. Donc, quelles solutions pour la France à l'aune de ce qui se fait déjà dans l'Union européenne ? Le gouvernement compte toujours revenir sous la sacro-sainte barre des 3% de déficit public en 2027. Ce sont les prévisions. François Eckhall, est-ce qu'on est entré dans une ère d'austérité ?
Je ne sais pas ce qu'est la définition d'austérité. Si toute réduction du déficit public est austéritaire, oui, on est dans une ère d'austérité. Mais bon, je... après...
Et sur ce que vient de dire Christian Chavagneux, réduire les dépenses, augmenter les impôts.
Alors, sur la question des impôts, celle-là, on va avoir une divergence. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de marge pour augmenter les impôts. Je ne sais pas quelle est la limite maximale du taux des prélèvements obligatoires.
On rappelle que la France est l'un des plus importants au monde.
C'était en 2022, c'était le premier de l'OCDE. En 2023, ce taux a baissé, ce qui est assez normal compte tenu de toutes les baisses d'impôts qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on n'a pas encore les comparaisons pour 2023, mais je pense que si on est peut-être plus sur le podium, on est juste en bas du podium. Hein, voilà. Donc, on est quand même parmi ceux qui auront les impôts les plus élevés. Je veux dire, et quelle que soit la nature de ces impôts, hein, on peut y décomposer impôts sur le travail, le capital, la consommation, sur le revenu, sur... On est quasiment partout, sauf un peu sur la consommation, on est presque partout dans les premiers. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir des taux d'imposition nettement plus élevés que ceux de nos pays concurrents et partenaires. Parce qu'on finit, un jour ou l'autre, par avoir des problèmes de compétitivité. Des problèmes de compétitivité, on les a déjà en France. On a un déficit de nos échanges courants qui est quasi permanent depuis 20 ans. Donc, on finit par avoir des problèmes de compétitivité, d'attractivité, de problèmes d'acceptabilité dans l'impôt. Donc, il y a des marges. Moi, si vous me dites, enfin, on parlait de transition climatique, je pense que le meilleur instrument pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est la taxe carbone. Donc je suis prêt. Je pense aussi qu'il faut compenser dans ces cas-là, il faut compenser les perdants. Donc on n'y gagnera pas forcément beaucoup d'argent. Mais voilà, je suis prêt à augmenter certains impôts, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge.
Christian Chavagneux, Emmanuel Macron l'a redit aujourd'hui, pas question d'augmenter les impôts, c'est un mantra pour le président depuis 2017.
Mais malheureusement, ce poujadisme fiscal, il est en train de plomber nos comptes, on l'a dit tout à l'heure. On est à 10 points de PIB de déficit budgétaire sur 2 ans. On ne pourra pas, François Eckel le dit souvent dans ses interventions, on ne pourra pas réduire les dépenses publiques à un tel niveau pour qu'on arrive aux 2,9%, donc sous les 3% à l'horizon 2027. On ne pourra pas s'en sortir sans augmenter les impôts. Moi, j'ai une proposition à vous faire, je ne sais pas ce qu'en pense François Eckel, qui peut rapporter beaucoup d'argent. J'ai regardé tout ce qu'on pouvait. Le gouvernement nous a dit on va peut-être taxer les rachats d'actions. Bon, compte tenu de la base fiscale, ça va rapporter 300 millions. Donc, on ne va pas réduire notre déficit de 10 points de PIB avec 300 millions. J'ai une proposition à vous faire, moi. Les 1% les plus riches en France, c'est des gens qui ont 5 000 milliards de fortune. 5 000 milliards de fortune. Je les taxe à 2%, uniquement à un taux marginal, comme on fait pour nous l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire uniquement sur la partie qui leur permet de rentrer dans le clan des 1% les plus riches. Je considère qu'il y a 10-15% des riches qui vont essayer d'échapper à l'impôt. Et vous savez, une fois que vous avez fait tout ça, vous savez combien ça rapporte d'argent ? Ça rapporte 55 à 60 milliards d'euros. On a eu le classement Forbes des personnes les plus riches au monde, hier ou avant-hier. La personne la plus riche au monde, Cocorico, c'est un Français, c'est M. Bernard Arnault. Il a 217 milliards d'euros de fortune. Si je lui applique ma taxe, il aura demain 213 milliards d'euros. Il sera toujours l'homme le plus riche du monde. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va spolier M. Bernard Arnault ? Avec 2%, une taxe marginale, je récupère 55 à 60 milliards d'euros. Et là, je suis dans un ordre de grandeur qui permet de répondre au dérapage des finances publiques.
Andrea Seidel, sur ce que vient de dire Christian Chavagneux, une taxer les plus riches ou peut-être des réformes structurelles ?
Je pense que la meilleure solution, et c'est comme toujours, je pense qu'il faut un mix des deux, en fait. Donc, il faut d'un côté regarder sur les côtés des dépenses, mais aussi sur les côtés des revenus. Et je pense que là, il ne faut pas être trop idéologique d'interdire qu'il y a des augmentations des impôts, mais il faut regarder quel type d'impôts on pourrait, mettre en place ou augmenter qui ont l'effet le moins défavorable à la croissance économique. Certains impôts sur la richesse, par exemple, pourraient être une solution qui vont plutôt dans le bon sens.
Et André Seidel, on sait que l'Espagne a entamé une politique de réforme structurelle pour rétablir un peu ses comptes publics. Est-ce que sur ce point, la France est en retard ?
Je pense que aujourd'hui, en fait, un des enjeux qu'on a eu, pourquoi la France a un déficit élevé, c'est que dans les années avant la crise Covid, on avait un contexte macroéconomique budgétaire plutôt favorable parce que les taux d'intérêt étaient très faibles, qui s'est aussi traduit dans des coûts plus faibles pour la dette, en fait. on n'a pas vraiment baissé plus les déficits en France. Et donc, après toutes ces crises qu'on a vécues maintenant, on se retrouve à un niveau très élevé, en fait. Je pense qu'il faut aussi utiliser notamment le bon moment en termes de cycle économique pour essayer de réduire les déficits pour qu'on n'arrive pas à des situations comme aujourd'hui. Je pense que la France a quand même fait pas mal de réformes structurelles les dernières années. La question est toujours quel type de réformes structurelles. C'est quelque chose qui est très large. Après, voilà, c'est quand même un état qui a un taux de l'état dans l'économie qui est très large. Donc, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir comment on veut gérer ça à l'avenir.
Et justement, François Eckel, quel type de réformes structurelles peut faire l'Hexagone aujourd'hui?
Alors, je vais peut-être répondre à
la question Chevalier aussi, vous avez le droit.
À la proposition. En fait, c'est une proposition qu'on a déjà, on a trouvé l'année dernière dans le rapport de Jean Pisani, Selma Mahfouz, pas exactement, mais ça y ressemblait. C'était même 5% d'ailleurs. Mais il y avait une note de bas de page. Et la note de bas de page, elle disait cet impôt exceptionnel sur la fortune des plus riches, etc., il sera payé sur 30 ans. Pourquoi payer sur 30 ans? Parce que la fortune des Dassault, de la famille Bettencourt, etc., c'est quoi? C'est des actions de sociétés françaises, c'est des actions de L'Oréal, de la société Dassault. Et donc si vous leur vous prélevez sur eux un impôt exceptionnel, que ce soit 2%, 3%, 5%, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre ses actions. Si la famille Bettencourt vend ses actions de L'Oréal, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui attend depuis très longtemps pour les acheter. Ça, il s'appelle Nestlé. Voilà, ce sont des non-résidents. Donc en fait, ce que proposait Pisani Mahfouz, en réalité, c'était de refaire un ISF, quelque chose qui rapporte en fait l'équivalent de l'ISF. En fait, 3 milliards par an, en fait, si c'était étalé sur 30 ans. Donc, ce n'est pas ça qui va répondre aux enjeux climatiques de finances publiques, c'est symbolique.
Quelle autre solution, alors?
Alors moi, d'ailleurs, qui
ma solution apporte 60 milliards, pas 3 milliards.
D'accord sur le diagnostic.
Bah oui, mais parce que vous l'étalez, parce que vous l'étalez pas, et vous allez avoir un problème.
Quitte
à faire un impôt sur la fortune, d'ailleurs, moi, je pense, comme beaucoup d'économistes d'ailleurs, que le meilleur impôt pour redistribuer les patrimoines, c'est l'impôt sur les successions. C'est bien mieux que l'impôt sur la fortune. Il faut mieux taxer le patrimoine hérité que le patrimoine acquis, parce que on a travaillé, on a épargné, etc. Bon, donc quitte à faire ça, je préfère ça. Après, les autres solutions, je considère qu'on ne peut pas augmenter trop les impôts, bah, il reste en effet les économies sur les dépenses. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Christian Chavagneux, je reconnais que c'est un peu la quadrature du cercle, parce qu'on a des besoins effectivement d'investissement dans la transition climatique, le militaire, etc. Si avec ça, je dirais, sur 58% de dépenses publiques, je pense qu'on pourrait redéployer pour faire un point de PIB de plus, ce qui est l'estimation de Pisani et Mahfouz sur la transition climatique, on peut. Le problème, c'est qu'il faut en plus réduire les dépenses pour réduire les déficits. Donc je reconnais que c'est extrêmement compliqué. Moi, ça fait 30 ans que je dis qu'on arrive dans une impasse. Bon, ben voilà. Là, on est dans la passe. Je ne sais plus très bien quoi faire.
Christian Chavagneux, sur ce que vient de dire François Eckel, est-ce que vous diriez aussi qu'il y a eu ces dernières semaines une prise de conscience en France, dans le débat public, le fait que ça revienne, cette question du déficit, une énième fois, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
Ça revient une énième fois. Ça fait 20 ans que les économistes libéraux, même quand on avait 60% de dette publique sur PIB, nous disaient qu'il y avait trop de dette publique. Donc non, c'est une antienne qui revient dans le débat public. Il faut quand même savoir que ce n'est pas si compliqué que ça, de faire du plus et du moins. Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé en 2017, nous a privé de 60 milliards par an de recettes budgétaires. 60 milliards. On n'aurait pas nos problèmes budgétaires aujourd'hui si Emmanuel Macron n'avait pas lâché nos recettes budgétaires comme ça, uniquement par idéologie fiscale, antifiscale, parce que le France Stratégie a fait l'étude de savoir si est-ce que ça a profité à l'économie, est-ce que ça a nourri l'investissement, est-ce que les personnes qui ont gagné plus de fortune parce qu'ils étaient moins taxés ont vraiment réussi à développer l'économie. Et la réponse à chaque fois à toutes ces questions, c'est non. Donc on n'a pas eu de l'efficacité économique. On a augmenté les inégalités. Oui, ça, il y a eu un effet social, une augmentation des inégalités dans ce pays. On a un taux de pauvreté qui n'a jamais été aussi haut en France que depuis qu'on a Emmanuel Macron. Donc, je trouve que la quadrature du cercle, elle se résout très, très vite. On a besoin de nouvelles recettes fiscales. Avec toutes les dépenses qu'on a besoin de faire pour les 10 prochaines années, on ne pourra pas s'en sortir sans augmenter les impôts.
Andreas Heisel, sur cette question des impôts.
Comme j'ai dit, en fait, je pense qu'il faut un mix entre les deux. On est, comme c'était déjà dit, on a un taux d'État qui est très large. En même temps, je pense que si on veut réellement réduire les déficits, voilà, il faut toucher sur les deux côtés. Après, On est aussi dans une situation compliquée aujourd'hui en termes de macroéconomie. Là, avec la baisse de l'inflation, aussi le coût du service de la dette va baisser probablement à l'avenir. Donc, redevenir sur un niveau plus stable, ou même baisser par rapport aux prévisions qu'on a jusqu'en 2027. Et ça va créer aussi un peu plus d'espace budgétaire à l'avenir. Après, reste l'enjeu en fait des règles budgétaires. La France avait quand même, dans le passé, pas la tradition de trop les suivre, qui était toujours un enjeu politique par rapport en termes de crédibilité auprès des partenaires européens. En même temps, il faut simplement voir en fait à quel point ces règles peuvent être appliquées sans trop créer des problèmes en fait en termes de croissance économique, en termes d'investissement. Donc, ça reste un peu un enjeu ouvert. Comme c'était dit, on n'est pas dans une situation de crise. Et je pense qu'il y a une reconnaissance que il y a une certaine fragilité, mais sans qu'il y ait vraiment une crise qui arrive. Je pense qu'on ne va pas non plus voir vraiment un changement fondamental en termes de politique budgétaire avec un changement beaucoup plus radical.
Ok. On n'est pas encore à l'heure de la crise. Il y a aussi cette épée de Damoclès, François Eckel, le verdict sur la dette française de la part des agences Moody's et Fitch attendu le 26 avril. Est-ce qu'il faut s'attendre à une dégradation ? Et là encore, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Alors, qu'il y ait une dégradation, c'est possible. Moi, je ne sais pas, c'est assez mystérieux la manière dont procèdent les agences de notation. Mais pour eux, oui, c'est possible, mais ça n'aura pas d'effet. Moi, quand j'étais il y a 12 ans à la Cour des comptes, tout le monde s'inquiétait de la perte du triple A de la France. Donc moi, je disais à la Cour, mais ne dites pas que qu'il va y avoir une catastrophe. On sera dégradé, il ne se passera rien. C'est une échelle, il y a une dizaine de crans de notation. Passer d'un cran à un autre sur une échelle qui en a 10, tant qu'on n'est pas dans la catégorie spéculative, là, on a des problèmes, en effet. Donc c'est un mauvais signal, c'est vrai, il faut en tenir compte, c'est un mauvais signal, mais il n'y aura aucun effet en pratique sur les taux d'intérêt.
Et Christian Chavagneux, juste, il y a un mot qui est omniprésent dans le débat politique aussi en France, c'est celui de la souveraineté. Est-ce qu'on peut être souverain avec une dette et un service de la dette de plus en plus lourd ?
C'est une bonne question que vous posez. Est-ce que c'est la cigale et la fourmi, nous en France, le costaud, c'est la fourmi, celle qui a épargné, mais celle qui danse sur la table, c'est celle qui est la victime. Est-ce que franchement, pendant que certains vont travailler comme des fous pour épargner, alors que nous on danse sur la table depuis 1974, qu'on a des déficits budgétaires, et on se nourrit de l'épargne du reste du monde, est-ce que c'est pas une preuve de puissance en fait que de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut et de se nourrir de l'épargne des autres ? Qui sont nos créanciers, par exemple, AXA ou la Banque Centrale du Japon ? Quelle est la politique que AXA ou la Banque Centrale du Japon nous ont imposée et qui ferait qu'on a perdu notre souveraineté ? Moi, j'en connais pas. Lionel Jospin a fait les 35 heures, il a fait les 35 heures. Emmanuel Macron a diminué l'impôt sur les riches, il a pu le faire parce que c'était les choix politiques nationaux, souverains, dans un sens, dans l'autre. On a pu faire ces choix. Moi, je ne pense pas que nos créanciers nous imposent une politique quelconque.
François Eckel, en 30 secondes, 40 secondes, sur sa question de la souveraineté.
Je pense qu'on est protégé par l'euro. C'est-à-dire qu'il y a, en 1982, on a fait une politique de relance qui a buté parce qu'à l'époque, on était obligé d'emprunter en devise et on n'arrivait plus à emprunter en devise. Donc là, on a eu un vrai problème. Là, on emprunte en euros. La Banque de France détient le quart de la dette publique française. Donc il n'y a aucun problème. Et la plupart de nos créanciers sont persuadés que s'il y avait un pépin, la Banque de France, pour le compte de la BCE, continuerait à acheter des titres publics français. Donc c'est l'euro qui nous protège, en fait.
Merci, c'est la fin de ce débat du jour. Merci à tous les trois, François Eckel, spécialiste des finances publiques, président de l'association Finances publiques et économie et conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Christian Chavagneux, économiste et éditorialiste sur le site d'Alternatives économiques. Et puis par téléphone, il y avait Andreas Heisel avec nous, chercheur en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors. Bientôt 20h à Paris, à suivre sur RFI le journal et décryptage consacré à la présidentielle américaine. Ce sera avec Sophie Pouzrat dans quelques instants. Et puis à 20h30, Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Kouadio.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Le Togo à la une de l'actualité africaine.
Le Togo, l'opposition participera bien aux élections législatives et régionales du 29 avril. Au programme également, nouveau tour de vie sur toute expression d'opposition ou de dissidence au Mali. Nous parlerons aussi de l'offensive diplomatique de l'Ukraine en Afrique avec l'ouverture notamment de 6 ambassades sur le continent, dont celle de la Côte d'Ivoire ce jeudi. Du football également avec les quarts de finale aller de la Ligue Europa. L'OM se déplace à Lisbonne pour affronter le Benfica. Nous entendrons l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang. Et comme chaque jeudi, nous retrouverons Hervé Mondina, alias DJ Facemaker, pour découvrir ce qui fait bouger la planète afro-urbaine.
Merci Zéphirin Quadio, et puis je remercie également Diego Tenorio à la réalisation de RFI Soir. Vous restez avec nous dans 30 secondes. Le